Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Coulisses, le podcast de la présidentielle.
Emmanuel Macron est un adolescent qui se cherche.
Madame Pécresse, elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Thatcher, deux tiers Merkel.
Je me sens plus qu'elle a Mitty Jane, pour tout vous dire.
C'est quand même un peu le 4 quarts breton, quoi.
Elle a quand intérêt à commencer son régime tout de suite, parce qu'elle va nous avoir matin, midi et soir.
Je veux de la fraîcheur en politique. Mince, vous croyez pas qu'on en a besoin aujourd'hui?
Coulisses. Le podcast de la présidentielle.
Bonjour, je suis Jérémy Trottin, le chef du service politique de RMC. Et en cette année à présidentielle, j'ai décidé avec mon service, Hélène, Juliette, Romain, Pierrick et Paul, de vous proposer un podcast. On y a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de réunions, on a débattu et on s'est dit que ce que nous souhaitions, c'est vous transporter dans les coulisses de la campagne présidentielle, ces images, ces petites phrases, ces informations que seuls les reporters de terrain peuvent capter et qui en disent souvent très long. En bref, tout ce que les candidats ne vous disent pas et ne vous montrent pas. Bienvenue dans Coulisses, le podcast RMC de la présidentielle, épisode 4, c'est parti. Bonjour Juliette, bonjour Romain.
Bonjour.
Bonjour.
Cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser au meeting d'Éric Zemmour et de vous dévoiler donc les coulisses de cet événement politique qui marque déjà le début de cette campagne présidentielle. 10 à 15 000 personnes exaltées réunies à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Une démonstration de force qui s'est déroulée dans un climat très violent. Tension dans les rangs du meeting, tension entre des militants politiques venus pour s'affronter et tension contre les journalistes attisés par le candidat lui-même.
Les journalistes veulent ma mort sociale, la meute est désormais lancée à mes trousses. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent.
Alors Juliette et Romain, vous étiez sur place dimanche, mais je vous propose aussi d'accueillir exceptionnellement aujourd'hui dans ce studio Florian. Il est également journaliste à RMC et il était présent dimanche à Villepinte avec vous. Salut Florian.
Salut.
Alors pour que tout le monde comprenne, toi tu n'es pas journaliste politique, mais tu étais présent en renfort avec donc Juliette et Romain. Tu étais mobilisé pour capter d'éventuelles scènes de violence et tout a commencé en fait très tôt, plusieurs heures avant même le début du discours d'Éric Zemmour.
Oui, moi je suis arrivé en début d'après-midi, je suis arrivé à la gare de Villepinte, la gare RER, qui est vraiment située à 200 mètres du parc des expositions. Alors quand je suis arrivé déjà, très importante présence policière, beaucoup de forces de l'ordre. Et puis ben, d'un côté, il y avait des militants antifascistes, donc venus pour donner de la voix. De l'autre, des pro-Zemmour, donc des gens venus assister au meeting. Donc c'est vraiment deux mondes qui s'opposent. En gros, il y a vraiment un climat électrique et on est là deux heures avant le début du meeting.
Et toi, ça t'a marqué? Enfin, tu t'attendais à ça?
Je ne m'attendais pas à autant de policiers sur place, franchement.
Et tu parlais des forces de l'ordre. À l'intérieur, il y avait aussi des équipes de la sécurité d'Éric Zemmour. Est-ce que tu as été marqué? Est-ce qu'ils étaient nombreux? Est-ce qu'ils étaient efficaces? Ils t'ont paru professionnels?
Justement, pas professionnels. Non, ça c'est sûr. Ils étaient très nombreux. Assez stressés en fait. On sentait une tension de leur part. Ils avaient peur que les événements dérapent. On sentait qu'il y avait de la tension de leur part. Et justement, non, tu parles de professionnalisme. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est justement un manque de professionnalisme. Ils ne savaient pas trop où aller. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Voilà, c'était compliqué. Leur travail avait l'air compliqué.
D'une part, il y avait une entreprise privée qui était en charge donc de la sécurité. Et à côté, en appui, il y avait aussi des bénévoles essentiellement des jeunes avec Zemmour, ce t-shirt GZ qu'on a vu un peu sur les images. Et c'est vrai que d'un côté, vous avez des professionnels, mais de l'autre côté, vous avez beaucoup de bénévoles. Et on a vu que le climat était assez tendu. Et ça explique sans doute un certain nombre de débordements. Et ces violences ont aussi atteint les journalistes, Juliette.
Beaucoup de journalistes accrédités, il faut quand même le préciser. 500 journalistes accrédités pour ce grand meeting. On l'a entendu tout à l'heure dans le premier son d'Éric Zemmour. Lui aussi, il s'est adressé aux journalistes, quelque part à travers son discours, accusé de mentir. Ils inventent des polémiques, c'est ce qu'il a dit. Les journalistes veulent ma mort sociale, c'est ce qu'on a entendu il y a quelques minutes. Et donc, il y avait un climat d'hostilité. Il y a eu des insultes, il y a eu des menaces, il y a eu du vol de matériel. Il y a des journalistes qui ont aussi été bousculés. Et juste avant le meeting, juste avant qu'Éric Zemmour prenne la parole, une équipe de Quotidien a été prise à partie. On va écouter. Voilà, ce qu'on entend, c'est tout le monde déteste Quotidien. Donc là, il y a une journaliste, son caméraman qui sont pris à partie. Toi, tu étais là, Florian, je crois, à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ?
J'étais là. En fait, on entend devant la scène, justement, ces gens en train de crier « Tout le monde déteste Quotidien ». Et là, il y a un mouvement de foule, en fait, parce qu'il y a les journalistes qui se font exfiltrer. Mais ça crée de la tension, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On se rapproche. Enfin, il y a une espèce de meute qui sort petit à petit du meeting.
Vous, en tant que journaliste, donc, comment vous avez vécu un petit peu ce climat de tension ? Est-ce que ça vous a atteint d'une façon ou d'une autre ? Comment vous avez vécu les choses de l'intérieur ?
Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on essayait d'interviewer des gens qui étaient présents, militants ou sympathisants, on nous demandait pour qui on travaillait. C'est-à-dire qu'ils semblaient faire le tri entre les médias. Il y avait des médias qui étaient un peu non grata. Non, vous êtes du service public, vous êtes de Mediapart, on ne vous parlera pas. Vous êtes de CNews ? Ah bah oui, là, il n'y a pas de problème, on va vous parler. Donc, il y avait une sorte de tri entre des médias peut-être un peu complaisants, des médias peut-être un petit peu plus critiques à l'égard de Zemmour. Donc, ça, c'était assez nouveau.
On peut dire que nous, on n'a pas eu de problème quand on a travaillé. Seulement, c'est vrai que ce climat crée quelque chose où nous, on est aux aguets, quoi. On doit faire attention et se dire, bon, bah, il peut y avoir des mouvements de foule assez réguliers. Ça crée aussi quelque chose chez les journalistes de se dire, il faut faire attention à ce qui se passe.
Il y a eu une autre agression aussi, notable, dont il faut parler, c'est l'agression qu'a subie le candidat Éric Zemmour. On le voit, il fend la foule. Lui aussi, il est accompagné de son service d'ordre. Et malgré tout, il se fait alpaguer par une personne qui était présente à l'occasion de ce meeting.
Ça se passe une dizaine de mètres avant l'arrivée devant le pupitre. Il y a un cordon de sécurité, mais il y a une brèche. Et donc, il y a cette personne qui s'engouffre et on le voit empoigné par le col Éric Zemmour. Sur le moment, on l'a pas perçu, nous, parce qu'il a rejoint son pupitre comme si de rien n'était. Il a commencé son discours et on s'en est rendu compte que plus tard, finalement.
Et puis, il y a une autre chose aussi que tout le monde n'a pas réalisé, c'est cette bagarre généralisée en plein discours d'Éric Zemmour. Lui-même, à la tribune, n'a pas du tout conscience de ce qui s'est passé à cet événement. Et pourtant, c'est l'image qu'on retient tous aujourd'hui. Toi, Florian, t'étais juste à côté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les choses se sont passées, comment finalement cette bagarre d'un seul coup a émergé entre d'une part des militants d'SOS Racisme et de l'autre côté des militants visiblement venus de l'extrême droite ?
Oui, alors faut bien comprendre que tout ça s'est passé très rapidement. Une dizaine de militants, donc de SOS Racisme, qui en plein meeting se lèvent, chacun se met debout sur sa chaise, et puis en fait chacun avait une lettre sur son t-shirt. On devait comprendre non au racisme. À ce moment-là, le service d'ordre de Zemmour saute sur ses militants, et puis un peu un mouvement de panique où des pro-Zemmour, coup de chaise, coup de poing, enfin on tabasse littéralement certains des militants de SOS Racisme qui sont donc exfiltrés du meeting. On les met dehors et moi ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est que donc, j'étais vraiment juste à côté, je voulais suivre ces militants pour comprendre qui ils sont, pour pouvoir aussi les interroger après ça. Et en fait le service d'ordre de Zemmour nous en a empêché, où en fait ils exfiltrent les militants de SOS Racisme et empêchent les journalistes de passer, de les suivre en faisant une chaîne humaine tout simplement pour nous, pour pas qu'on fasse l'image en fait. Et puis pour surtout pas qu'on les interroge, pour pas qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là, des images d'ailleurs qu'on a vues après, où le service d'ordre de Zemmour calme l'ultra-droite en leur disant « Vous avez bien fait les gars, vous avez fait le boulot, maintenant retournez tranquillement au meeting, histoire de canaliser en fait, de les canaliser. »
C'est quand même fou qu'en fait ce meeting ait été l'occasion d'affrontement entre des militants d'un côté pacifistes, de l'autre côté des militants venus de l'extrême droite. Est-ce que Juliette, ça pose un sujet, un problème aux équipes du candidat ? Est-ce qu'ils vont anticiper les choses pour les prochains meetings ? Qu'est-ce qu'ils te disent, les proches de Zemmour ?
Alors, oui, il y a un problème de sécurité, ça c'est certain, parce qu'à Villepinte, même avant le début du meeting, il y a des cocktails Molotov qui ont été retrouvés. Il y a des bouteilles d'acide, des boulons, des pavés qui étaient déposés sur les chaises. Donc, il y avait visiblement volonté que ça se passe mal, en tout cas que ça dérape. Dès le lendemain de Villepinte, en fait, il y a eu des réunions de crise au QG d'Éric Zemmour. Nous, on a essayé de joindre le chef de la sécurité. Il était injoignable toute la journée puisqu'il enchaînait, lui, les réunions. Et ce qu'on nous dit, c'est que oui, il faut tirer les enseignements de Villepinte. Parmi les pistes, il faut, par exemple, intensifier les fouilles avant les meetings. Plus d'agents de sécurité, c'est ce dont parlait Florian tout à l'heure. Redimensionner, peut-être plus de bénévoles pour gérer les mouvements de foule. Il y a aussi la question de la sécurité du candidat lui-même. Déjà, lui, protégé nuit et jour par deux policiers du service de protection des personnes menacées, un service qui dépend du ministère de l'Intérieur. Il y a un autre problème qui est soulevé par la bagarre entre SOS Racisme et les militants de l'ultra-droite, c'est comment gérer à l'avenir le soutien de ces militants extrêmement violents qui viennent de l'ultra-droite. Nos confrères de Libération, ils ont identifié sur les images un groupuscule qui s'appelle les Zouaves, un groupuscule qui est héritier du GUD, qui n'a pas de contenu idéologique et qui viennent uniquement pour casser, en fait. Et la question qui se pose, c'est sur la suite de la campagne, si jamais ils sont à nouveau présents dans des petites villes, par exemple, sur des lieux peut-être moins faciles à sécuriser que Villepinte, ça pourrait devenir un problème de soutien un peu encombrant pour Éric Zemmour.
Donc à suivre pour les prochains meetings. On te remercie, Florian, d'être venu dans le podcast Police, exceptionnellement cette semaine. On va te libérer parce que je crois que tu dois repartir en reportage. Et on va maintenant nous s'intéresser aux leçons, cette fois politique, de ce meeting d'Éric Zemmour. Et l'ambition de l'ancien journaliste, ancien polémiste, était au moins double à l'occasion de ce meeting, relancer une campagne qui commençait à s'épuiser, mais surtout prouver qu'Éric Zemmour, désormais candidat officiellement déclaré, était capable d'endosser le costume de candidat. De ce point de vue, cela a plutôt fonctionné. Tous les codes des meetings à l'ancienne ont été respectés. Donc Romain, est-ce que tu peux nous expliquer précisément, toi, ce qui t'a marqué dans ce meeting ?
Alors, ce qu'on a vu, c'était une organisation millimétrée, vraiment. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans cette grande, grande salle de Villepinte. Il y avait 15 000 chaises hyper bien alignées, avec des distributions de drapeaux. Une fois que tout le monde a été installé, il y avait un chauffeur de salle qui a fait monter l'ambiance. Et puis, surtout, il y avait un spectacle son et lumière très organisé. On a vu plusieurs films diffusés avant les prises de parole qui revenaient sur les dernières semaines de pré-campagne d'Éric Zemmour. Il y avait un jeu d'ombre et de lumière avec de la musique pour faire monter la pression avant l'arrivée du candidat. On va l'écouter. Là, on entend les battements de cœur qui étaient mis en fond sonore, en quelque sorte. Et les gens attendaient progressivement que Éric Zemmour fende la foule. Et une fois qu'il a commencé à fendre la foule, il y a de la musique qui a commencé à monter. La voici. Et à partir de là, il y avait une ambiance où tout le monde était très survolté pour voir le candidat arriver.
En tout cas, c'était très pro comme organisation.
Extrêmement pro. En fait, on a senti la patte d'un homme qui s'appelle Olivier Hubeda, qui était recruté par Éric Zemmour il y a quelques mois. Et ce Olivier Hubeda, c'est le monsieur événement, si vous voulez, de la campagne d'Éric Zemmour. Il était avant, il y a quelques années, dans l'équipe de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est lui qui avait organisé tous les meetings. Donc des grands shows comme celui-ci, ça, il sait faire.
Et est-ce que vous avez remarqué un changement aussi dans l'attitude du candidat ?
Alors dans l'attitude, oui, tout à fait. D'abord, il y avait des prompteurs quand il a parlé, Éric Zemmour. Donc il avait le dos droit. D'habitude, il se penche un peu sur ses feuilles. Là, il était très droit, il regardait le public, puisqu'on ne tentait pas de les regarder. Il leur parlait, il les interpellait. On va l'écouter, vous allez voir, il parle vraiment à son public.
Qui aurait pu imaginer cela il y a encore quelques mois ? Mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Non, ce grain de sable, ce n'est pas moi. Ce grain de sable, c'est vous.
C'est pas vraiment un discours théorique comme on a l'habitude avec Éric Zemmour, où il y a plein de citations d'auteurs. Il a fait une esquisse de programme économique. Par exemple, il a parlé de la baisse de la CSG pour les plus bas salaires. Et puis finalement, ses thèmes de prédilection, l'immigration, l'identité, c'est venu plus tard. On voit qu'il essaye d'élargir son spectre.
Il a aussi aseptisé son discours.
Voilà, exactement.
Et Juliette, toi qui suis un petit peu le phénomène Zemmour depuis maintenant plusieurs semaines, est-ce que tu as senti un moment de bascule à l'occasion de ce meeting de Villepinte ?
On peut donner un chiffre peut-être pour montrer que ce meeting, il faut le dire, il est quand même réussi. 48 heures après Villepinte, l'équipe du candidat a enregistré 20 000 adhésions. Alors, c'est les chiffres qu'ils nous donnent. Nous, on ne peut pas vraiment les vérifier. Mais de ce point de vue-là, c'est quand même le signal que ça a été plutôt un succès. Autre signal, il a rempli le parc des expositions de Villepinte. Hein. On le dit, entre 10 et 15 000 spectateurs. Normalement, quand on organise ce genre de meeting démonstration de force, c'est surtout en fin de campagne. Lui, il fait ça au tout début de la campagne. Donc là, c'est la preuve que c'est encore une fois plutôt réussi. Romain en parlait tout à l'heure. Il semble aussi avoir entendu les critiques. Ça, c'est aussi la preuve que y a un point de bascule, qu'on est quand même à un tournant de la campagne, réussi ou pas, la question se pose quand même parce que là, on est quelques jours après Villepinte et il n'y a pas de frémissement dans les sondages, donc il n'y a pas forcément d'effet premier meeting d'Éric Zemmour qui se voit dans l'opinion. Certains politologues disent en fait qu'il a stoppé l'hémorragie et relancé une campagne qui prenait finalement un peu l'eau.
Donc en résumé, la démonstration de force a plutôt été réussie d'un point de vue politique. À voir maintenant en effet si cela va se traduire dans les sondages, dans la dynamique aussi de la campagne d'Éric Zemmour, qui n'a toujours pas recueilli, hein, il faut le rappeler, les 500 signatures nécessaires pour se présenter sur la ligne de départ. On suivra tout ça avec beaucoup d'attention et rendez-vous déjà dans les toutes prochaines semaines. Ce point incontournable, Éric Zemmour obtiendra-t-il les 500 signatures nécessaires pour se lancer? On examinera ça de très près. Et comme promis dans ce podcast, nous allons aussi maintenant vous transporter dans les coulisses de ce meeting et vous faire découvrir les petits à côté de cette grande messe politique.
Une casquette Zemmour 2022.
Bleu, s'il vous plaît.
Je vais vous prendre un blanc et un bleu, s'il vous plaît.
Voilà, ce que vous entendez, c'est l'ambiance de l'un des quatre stands de ce qu'on appelle les goodies estampillés Éric Zemmour. Donc il y avait des grandes tables avec des t-shirts, faites Zemmour, pas la guerre, des briquets, des casquettes, avec une expression aussi, ben voyons, expression souvent utilisée par Éric Zemmour. Il y a un phénomène en fait de fanatitude un peu comparable à ce que pouvait susciter un Nicolas Sarkozy en son temps. Éric, par exemple.
J'ai acheté une casquette et un t-shirt. Et derrière ma voiture, je vais coller une étiquette d'Éric Zemmour au président.
Oui, c'est incroyable, enfin, jusqu'à coller cette étiquette ou un autocollant, ce qu'on voyait en effet il y a quelques années, mais on n'imaginait pas qu'Éric Zemmour puisse créer un phénomène en si peu de temps, non enfin,
Et puis il y a une marque en fait avec le Z, ils utilisent beaucoup ce signe.
Une marque, un concept.
On avait à la fois ce Z qui revient parfois dans des slogans aussi, on entend le Z, Z, Z dans le meeting, et puis le bain-voyant aussi revient même comme une sorte de...
Donc ils reprennent des éléments de langage d'Éric Zemmour, il y a vraiment un phénomène de groupe, d'appartenance, et on veut afficher les mêmes codes pour montrer qu'on appartient à ce groupe qui soutient Éric Zemmour.
Est-ce que vous avez pu identifier tous les deux, et toi Juliette en particulier, qui sont ces fans d'Éric Zemmour?
C'est difficile à dire parce que c'est un public extrêmement hétérogène. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes. Ça, on l'a vu sur les images. C'est la force aussi d'Éric Zemmour. Il attire une jeunesse plutôt de droite, conservatrice sur les valeurs, plutôt bourgeoise, très mobilisée, très connectée. Un poil, allez, on va le dire, gouroutisé par Éric Zemmour, puisqu'on le disait à l'instant, ils reprennent tous ces éléments de langage. Moi, ce qui m'a surprise quand on a interrogé les sympathisants, c'est aussi l'origine politique des partisans d'Éric Zemmour. On va en écouter quelques-uns.
Je viens de la droite. Pendant très longtemps, j'ai eu une carte UMP.
Moi, j'étais plutôt à extrême droite. Je votais déjà pour Jean-Marie Le Pen.
Ou Dupont-Aignan aussi.
J'étais de gauche avant. J'étais même mélenchoniste, si vous voulez savoir.
Alors, mon côté atypique, c'est que je viens de l'Alliance écologiste indépendante. Donc, en fait, vous voyez, t'as des gens qui arrivent, des écolos, chez Zemmour.
On a aussi croisé des gens qui ne voulaient pas nous parler en haut, au micro. Moi, je me souviens, tu te souviens peut-être aussi, Romain, quand on a croisé ce père de famille avec sa fille de 14 ans, ils étaient quasiment au premier rang. Ils avaient ce t-shirt Zemmour 2022 et le papa, il disait qu'il votait depuis 20 ans, FN, qu'il votait en cachette, qu'il ne l'avait jamais assumé. Et là, il arborait ce t-shirt, il avait emmené sa fille avec Éric Zemmour. On assume.
Puis il y a un autre profil qu'on avait vu. C'était une personne juste à côté, il discutait en fait, ce père de famille et cette personne. Il avait plus de 70 ans, il n'avait jamais voté de sa vie, il avait toujours été abstentionniste et c'était la première fois qu'il assistait à un meeting. Donc on voit qu'en fait, il y a des profils extrêmement variés, c'est très difficile de ressortir un profil type.
Un côté culte de la personnalité, c'est vrai que les gens sont habitués à voir Éric Zemmour, il a été présent sur l'antenne de CNews pendant des années, même sur France 2 le samedi soir, donc c'est quelqu'un qui a une notoriété importante déjà aujourd'hui, qui est passé dans le monde de la politique assez rapidement, radicalement à l'occasion de cette présidentielle. Mais on voit bien qu'en effet, c'est peut-être plus facile aujourd'hui de s'afficher pour Éric Zemmour que ça ne l'était il y a quelques années pour s'afficher pour Jean-Marie Le Pen, par exemple.
Et le monsieur dont parlait Romain tout à l'heure, l'abstentionniste qui avait à peu près 70 ans, il nous disait « Moi, je vais rechercher des parrainages pour Éric Zemmour. mais au titre de rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué dans la campagne, il n'est pas du tout en service commandé par les équipes de Zemmour, mais lui, il va démarcher des maires qu'il connaît pour recueillir des parrainages. Donc ça, c'est assez intéressant aussi chez les partisans d'Éric Zemmour, c'est qu'ils veulent s'impliquer personnellement dans la campagne. On a croisé Jacques, par exemple. Lui, il fait partie d'un comité en Loire-Atlantique.
Localement, on a commencé à se réunir avec quelques personnes pour créer ce maillage local. Donc effectivement, on s'est rendu compte que toi dans ta commune, toi aussi tu penses comme nous. Finalement on est plus nombreux qu'on le pensait. Et on va de moins en moins avoir peur de le dire. Il est grand temps d'ouvrir les yeux. Grand temps d'ouvrir les yeux.
Une campagne, c'est donc aussi tous ces petits moments et surtout ces témoignages qu'on adore capter, nous, en tant que journalistes. Ces échanges de ces fans qui nous expliquent les raisons de leur choix et qui en disent parfois beaucoup plus long que les sondages ou les grands discours. Voilà, coulisses épisode 4, c'est terminé. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses du plus gros meeting déjà de cette campagne présidentielle. Merci Juliette, merci Romain.
Merci Jérémy.
On se retrouve la semaine prochaine. D'ici la coulisse est à écouter, réécouter sur RMC et sur toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus le journal du off du service politique de RMC tous les matins à 5h45 sur nos antennes et sur les réseaux sociaux.
Coulisses, le podcast de la présidentielle à écouter sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.